Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Radio Prague. Aujourd'hui, mardi 1er mai, fête du travail, nous vous proposons une émission spéciale, une rencontre avec Eurydice Santolin, traductrice du tchèque. Dans un long entretien qu'elle a accordé à Radio Prague, elle est revenue sur ses débuts en tchèque, sa découverte du pays grâce à la littérature et les romans de Bohumil Hrabal, plus précisément son travail de traduction, notamment celui de Babička de Božena Němcová et de ses projets futurs. Passeuse de culture grâce à son travail, Eurydice Santolin est une amoureuse de la langue tchèque, une affection, qu'elle essaie de transmettre à ses lecteurs en toute modestie. Elle est au micro d'Anna Kubišta. Bonne écoute.
Eurydice Santolin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes traductrice de tchèque. Vous viviez dans une petite ville très jolie à côté de Paris qui s'appelle Fontenay-aux-Roses. C'est là où on se rencontre parce que malheureusement, vous n'avez pas souvent l'occasion de venir en République tchèque, ce qui est bien dommage. Donc, on a l'occasion de se rencontrer après une longue correspondance par email. Vous avez traduit Babička de Božena Němcová, Grand-mère en français, qui est sortie aux éditions Zoé en 2008, et également La Belle de Yoza de Květa Legátová. On reviendra sur ces traductions un peu plus tard dans la conversation. Je vais tout simplement vous demander comment est-ce que vous êtes arrivée au tchèque.
Au tchèque, je suis arrivée par hasard en fait. J'ai entendu parler de Prague au début des années 90 puisque je connaissais des gens qui sont allés là-bas, qui ont trouvé cette ville très belle. Et c'est vrai qu'elle est très belle. Bon. Mais à l'époque, j'étais à l'université en études de lettres modernes à Montpellier, et j'ai pris le tchèque comme option pour essayer simplement au départ. Et j'ai trouvé les sonorités de la langue très belles, et surtout, ce qui s'est passé par la suite, c'est que à la bibliothèque de l'université, j'ai lu des auteurs qui étaient traduits à l'époque en français, et j'ai énormément aimé les romans de Bohumil Hrabal. Et les poésies de Hlava Tchèk. Donc j'ai vraiment eu une sorte de choc littéraire à ce moment-là, et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à trouver de particulier dans cette littérature.
Et votre première rencontre avec le monde tchèque s'est passée comment ? Sur place ?
Sur place, la toute première rencontre, j'étais à Prague, donc j'étais émerveillée par le décor, si je puis dire. Enfin, c'était assez merveilleux. Donc je peux, avec le recul aujourd'hui, je sais que j'étais dans une vision très idyllique, comme beaucoup de gens qui ne font que visiter une ville qui est magnifique. Enfin, il y avait aussi toutes ces histoires en arrière-plan de légendes locales, d'histoires d'alchimistes, bien évidemment. Enfin, ça, voilà. J'ai eu Praga Magica comme livre de chevet pendant un moment. Donc j'étais vraiment baignée dans cette atmosphère-là. Donc, mon premier contact, c'est très très bien passé. J'étais peut-être un peu déconnectée de la réalité des gens à ce moment-là, de ceux qui vivaient vraiment dans le pays et de ceux qui commençaient à l'époque, je crois, à avoir un peu de mal à se loger dans Prague. Mais c'était très agréable en tant que personne extérieure de découvrir ce milieu de cette façon-là.
Alors, c'est ce que je disais en introduction, vous avez traduit récemment Babička. Qu'est-ce qui vous a donné envie de traduire ce livre en particulier ? Parce que c'est quand même une référence dans la littérature tchèque. Au premier abord, on pourrait se dire que ce n'est pas forcément quelque chose qui pourrait fonctionner à l'étranger dans une autre langue.
Effectivement, il y a des spécificités de langage. Il y a vraiment des particularités. Mais ce qui m'a donné envie de le dire, c'est d'abord que j'ai été en contact avec ce livre par le fait d'avoir étudié un passage pendant mes études à l'INALCO, au Langzo. Notre prof nous avait fait étudier l'histoire de Viktorka, qui est la plus romantique, la plus sombre du roman. J'avais un attachement à cette histoire, pas spécialement uniquement celle de Viktorka, mais à ce roman, en fait, à ce qu'il raconte. Pour le côté, coutume populaire à la fois, mais sans être... il y a ce côté coutume populaire, mais c'est pas du tout naïf ou niais. C'est ça qui m'intéressait. Et c'était aussi un exercice de langue assez intense, et ça aussi, ça m'intéressait, parce que... Il y avait quand même pas mal de recherches à faire au niveau du vocabulaire et des expressions qui m'ont mené à avoir des contacts avec des gens sur place qui étaient assez enrichissants. Donc,
vous avez mis combien de temps pour le traduire ?
Longtemps. En fait, j'ai commencé avec mon mémoire de maîtrise, puisque j'avais fait un mémoire de maîtrise sur les poèmes de Jaroslav Seifert, dans lesquels il fait référence à Božena Němcová et au personnage de Viktorka dans Babička, dans Grand-mère. Donc j'avais à ce moment-là traduit les extraits de l'histoire de Victor K, puisque c'était ce qui était visé par mon mémoire. Et puis j'ai eu envie de traduire le reste, en fait, tout simplement. C'est venu.
Il y avait déjà eu une traduction, mais alors elle datait du 19e, il me semble.
Oui, il y a eu une édition en français en 1900. Et il y a eu une autre traduction beaucoup plus locale dans les années 90 du 19e siècle par une jeune fille tchèque. Alors que je n'ai pas pu lire en intégralité, je n'ai pas trouvé le texte. J'avais beaucoup de choses à trouver pour décrypter et traduire Babichka. Mais donc j'ai pas trouvé ce texte-là, mais j'ai lu des critiques de Václav Tcherny qui fustigent en fait le niveau de français de cette traduction. Et il y a cette traduction de 1900 qui est dans un bon français, hein, il n'y a aucun doute. Voilà. Aujourd'hui, on dirait
mais
qu'elle
qui est
est
datée.
Datée, voilà. C'est exactement ça.
Alors justement, vous parliez des problèmes de langue. On dit que Babička, c'est un peu le point d'orgue stylistique de la littérature tchèque. D'une part, c'est un sacré défi pour vous, j'allais dire, enfin de se mettre à traduire. Et pourquoi est-ce qu'on dit, pourquoi justement est-ce qu'on parle de Babička en ces termes?
C'est sûr que c'est un sacré défi. Et très honnêtement, j'aimerais bien reprendre ce texte en français, hein, la traduction que j'ai faite pour l'améliorer encore. Je pense qu'il y a vraiment des choses. Bon, une traduction est toujours perfectible, mais voilà, c'est peut-être aussi mon attachement à ce que je fais qui fait que j'ai vraiment toujours un peu la perspective de l'améliorer, mais c'est pas toujours possible. Donc là, c'est imprimé, c'est fait, voilà. Il y a peut-être des aspects, oui, dont je me suis rendu compte petit à petit, des aspects de la langue. L'autre question, c'était qu'est-ce qui fait
Qu'on considère ce roman comme un peu une espèce
Ouais,
de.
comme la prose fondatrice finalement de la littérature tchèque. Ben, je pense que c'est beaucoup une question d'époque, en fait, de contexte déjà. Elle a quand même écrit ce roman à un moment où la langue tchèque était un acte. Écrire en tchèque était un acte militant, patriotique, où les bases étaient en train d'être posées. Il y a surtout ça. Alors, en tant que personne de langue maternelle française et pas de langue maternelle tchèque, je ne peux pas tout à fait me rendre compte de, véritablement, hein, j'entends, de la façon dont les Tchèques peuvent percevoir le côté archaïque de la langue de Němcova. Mais j'entends bien de toute façon que ce n'est pas la même langue que celle que parlent les gens, et même que celle qui s'écrit actuellement. Donc là aussi, il y avait un travail vraiment historique qui m'intéressait. De mon côté, qui consistait à vérifier avec le dictionnaire historique de la langue française, les datations des mots, pour éviter d'avoir des termes trop récents, par exemple, dans la mesure du possible. En tout cas, ce que je me suis attachée à faire, et qui m'a beaucoup amusée, c'est une sorte de travail un peu oulipien, et ça me plaisait bien. Il y a des expressions qui sont quand même assez, alors pas exactement précieuses parce que le mot serait exagéré, mais qui ont tendance à être un peu précieuses pour des auditeurs ou des lecteurs d'aujourd'hui, chez Nemtsova par exemple. Je sais plus sur quel site j'avais lu une critique par un lecteur, hein, qui l'a comparé un peu à la comtesse de Ségur. Ce qui est pas faux, mais c'est quand même pas non plus la même chose. Enfin, on pourrait la comparer aussi. On l'a beaucoup comparé à George Sand aussi.
Oui, moi je pensais aussi. C'était une de mes questions d'ailleurs. Est-ce qu'on pouvait la comparer justement à George Sand, selon vous, ou par exemple à toutes ces femmes écrivains comme Jane Austen aussi, par exemple?
En fait, il y a quand même qu'avec les femmes qu'on veut toujours les comparer à d'autres femmes écrivains. Voilà, c'est un classique, on va dire maintenant.
Je suppose que c'est aussi parce qu'il y en avait peu qui écrivaient à l'époque. Donc, quand
Oui.
elles écrivaient, elles sont forcément connues, elles sont forcément mises en valeur et du coup, voilà, comparées.
Et mise en compétition presque aussi. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, mais. Il y a un texte de Rabal où, d'ailleurs, où il parle de Bojana Nemtsova et dit qu'elle écrivait comme un homme. Bon, c'est de l'humour de Rabal aussi, c'est son humour, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est que ce qu'il dit, c'est que ce qu'elle écrivait était suffisamment percutant pour qu'on laisse de côté le fait que ce soit une femme ou un homme qui l'avait écrit. Ceci dit, bon, il y a un attachement dans le roman au niveau des personnages féminins, aux soucis qu'elles peuvent vivre, en fait. Qu'on ne retrouverait pas forcément, surtout à l'époque, chez un auteur masculin, c'est sûr. Mais la comparer à George Sand, je ne trouve pas ça tout à fait incongru du tout. Hein, sauf qu'il me semble, ça c'est mon avis de lectrice, hein, c'est tout à fait personnel, mais il me semble que George Sand a des postures plus intellectuelles que Nemtsova, qui est beaucoup plus proche d'un côté. Je peux pas vraiment dire paysan, ça serait injuste, mais d'un côté concret, descriptif de la vie des gens. La présence des salons est moins intangible en fait dans les écrits de Nîmes Sauvage, je trouve, que dans ceux de Georges Sand. Il y a quelque chose de peut-être plus proche de ce journalisme naissant à l'époque d'ailleurs. Mais elles étaient attirées par des thèmes communs aussi, justement la vie des paysans. Et il y a une façon aussi de fustiger la superstition ou de la dénoncer du moins de la dénoncer chez Nîmes Sauvage plutôt, qui pourrait être comparable aussi.
Pour le titre justement de Babetchka, vous avez gardé en fait Babetchka pour l'édition, pour cette édition, donc en trans, en disons translittération, parce que c'est écrit Babitcha, donc comme si c'était écrit en français. C'était votre choix, c'était le choix de l'éditeur, plutôt que de l'appeler finalement grand-mère ou carrément donner un autre titre.
C'est l'éditrice qui a choisi. Alors moi, je dis Babitchka parfois quand je parle avec des tchécophones parce que ça me fait plaisir de prononcer des mots tchèques, tout simplement. De la même façon que quand on était étudiant, entre français, on pouvait dire on va à la hospoda, au lieu de dire on va au bar. Ça fait juste plaisir. Mais là, c'est un autre sujet. Pour ce qui est du titre vraiment de cette édition, c'est l'éditrice qui a choisi ce titre translittéré, alors qui plaît ou qui plaît pas. J'ai eu vraiment des réactions très variées, très partagées. Moi, j'ai tenu vraiment à ce que la traduction du titre figure à l'intérieur, au moins, sur la page de garde. Parce que oui, ça permet. J'abordais un petit peu, enfin, pas exactement le texte comme un document historique, mais il y avait quand même quelque chose de documentaire pour moi dans l'idée de faire cette traduction. Et ça me semblait important que les gens sachent au moins comment l'auteur l'avait intitulé. C'est aussi une marque de respect pour le travail qui a été fait par l'auteur. Donc voilà, j'assume pas le titre de couverture français. Ça, c'est l'éditrice qui l'a choisi. J'ai pas tellement d'avis à avoir dessus, puisque honnêtement, vraiment, les gens m'ont. Il y a des gens qui ont trouvé ça absolument génial, parce qu'au moins les Français allaient apprendre un mot tchèque et le prononcer correctement. Je comprends tout à fait ce point de vue. D'autres qui étaient choqués par le fait que ce n'était pas une traduction. Du coup, voilà. Alors, en tant que traductrice, j'aurais eu tendance à mettre en avant plutôt la traduction, mais ça se vaut. Enfin, je n'ai pas tellement d'avis plus avancés là-dessus, en fait.
Que vous parlez justement de réactions, en tout cas par rapport au titre, de manière générale, quels ont été un peu les échos que vous avez eus sur la sortie de ce livre?
Bah moi, ce qui m'a beaucoup touchée, en premier lieu, c'est la première chose à laquelle je pense, parce que ça m'a beaucoup touchée, ce sont des personnes assez âgées, en fait, en France, qui sont d'origine tchèque, qui ont migré à un moment ou à un autre, et qui venaient me voir pour me parler, quand on. Quelques occasions où il y a eu des rencontres, pour me dire qu'en fait, ils l'avaient acheté pour l'offrir à leurs petits-enfants. Et ça, c'est vraiment. Je me suis dit. Ils étaient tellement contents d'avoir une nouvelle version de ce roman, quelque chose d'assez fondamental, qui fait vraiment tellement fondamentalement partie de la culture que comme l'écrivait Miloš Urban, en fait, même ceux qui n'ont pas lu ce roman de Nemtsova savent tout ce qu'il y a dedans, en fait. C'est vraiment un fondamental, un archétype presque de la littérature et de la culture tchèque. Ça fait partie des réactions qui m'ont vraiment plus fait plaisir, ce côté, arriver à faire un lien entre les générations, vraiment. Parce que finalement, la traduction, c'est un peu ça aussi, de faire un lien entre des cultures et voilà, arriver à faire passer des choses, à connecter des mondes qui ne se connecteraient pas forcément spontanément ou tout seul, ou qui se connecteraient difficilement. C'est un peu l'idée. C'est des gens dont j'essaie d'imaginer l'histoire aussi, comment ils sont partis du pays, qu'est-ce qui a pu leur arriver, depuis combien de temps ils sont là, quelle est la difficulté aussi pour. Moi, je suis issue d'une famille d'émigrés, à moitié d'émigrés espagnols aussi. C'est pas le même contexte, mais il y a quelque chose de commun aussi dans le fait de se retrouver, en tout cas pour les générations qui ont directement migré, de se retrouver dans un pays où. Où finalement, on doit un petit peu laisser sa culture de départ de côté. Et où ça me semble évident, les personnes que j'ai rencontrées, qu'elles avaient envie de transmettre, de transmettre un peu de ce qu'ils ont pu connaître à leurs descendants ou à leur entourage, en fait. Finalement, c'est pas si fondamental que ce soit l'entourage seulement ou les descendants, mais il y a vraiment. Je trouve qu'il y a quelque chose d'important là-dedans, quand même, dans le fait que les gens puissent. Sortir de l'étouffement premier qui est celui de la situation de l'immigré.
Pour revenir à l'autre roman que vous avez traduit, c'est le roman de Květa Legátová, La Belle de Joza, alors dont a été notamment tiré un film qui s'appelle Gelare. Comment est-ce que vous êtes arrivé justement à traduire ce roman aussi? C'était avant Babichka, il me semble.
En fait, j'ai commencé à le traduire plus tard et il a été publié plus tôt. C'était déjà un travail moins long, pas forcément plus facile, mais le texte est beaucoup plus court déjà, donc. Il est dans un tchèque plus contemporain. Ça n'a pas été le même travail du tout.
Qu'est-ce qui vous a séduit justement dans ce texte?
Ce qui m'a séduit, c'est le côté faussement simple de la langue. Enfin, on a l'impression que c'est une langue très simple, alors qu'en fait, elle est très subtile. Et ça, c'était un casse-tête parfois. Ça m'intéressait pas mal de me confronter à ça. Et puis l'histoire en elle-même est très attachante finalement. Je pense que je vais citer un titre hein, d'un article qu'il y a eu en France. C'est celui qui m'a fait le plus plaisir. C'est dans Ouest France parce que j'ai eu la même perspective. Ouest France avait titré une histoire d'amour sans sentimentalisme. Et c'était vraiment ça l'idée pour moi. C'est que il y a quelque chose de surprenant dans cette histoire qui commence comme une histoire de guerre, d'espionnage et qui dérive vers vraiment une histoire d'amour en fait. Mais on n'est pas du tout le côté sentimental ou ce qui peut s'annoncer comme violent dans le roman va vers quelque chose de bon et ce qui peut s'annoncer comme paisible et tranquille va vers quelque chose de violent parfois. Ce que je trouve assez beau là-dedans, c'est qu'il y a vraiment toute la complexité de la réalité qui est représentée d'une certaine manière.
Vous aviez vu le film d'ailleurs?
Je l'ai vu après, mm-hmm. On me l'a prêté par la suite, parce qu'il est passé, en France, mais très peu de temps. Mm-hmm. Oui, je l'ai vu après. Alors le film est un mélange des deux romans. C'est un peu un cliché de dire ça, mais j'ai vraiment préféré les textes que le film. Parce que je trouve le film trop démonstratif aussi, hein, personnellement. Mais... Mm-hmm. Disons, il y a une façon de filmer qui fait anticiper vraiment au spectateur le sentiment qu'il va avoir juste dans la scène suivante, qui me plaît pas beaucoup. C'est une question de goût, je pense. Je connais des gens qui l'ont beaucoup apprécié, voilà. Après, tout est trop donné de façon évidente, je trouve. Bon, mais ça, je suis une littéraire, hein. je suis pas une personne de cinéma, je suis une personne plutôt penchée vers la littérature, donc c'est pas la même approche des histoires, en fait.
Il y a d'autres livres, d'autres auteurs, peut-être contemporains, qui vous plaisent, que vous aimeriez traduire? Ou que vous êtes en train de traduire, d'ailleurs?
Oui. Bah oui, je suis en train de travailler à Hardy Bujas. Parce que c'est un roman qui me fait beaucoup rire. Enfin, qui m'a fait beaucoup rire. Il continue à me faire rire, d'ailleurs. Voilà, le défi maintenant, c'est de trouver un éditeur francophone qui puisse le publier. J'aimerais beaucoup arriver à traduire et finir de traduire et faire publier Film Farum aussi, de Véry. Je suis très portée sur les contes ces derniers temps, donc là c'est une vision très intéressante des contes de Grimm souvent qui sont vraiment
retravaillés,
bien décalés, ouais, c'est ça. Ben, je me suis mise aussi en contact avec Jonas Tokarski. Parce qu'en fait, il y a quelques temps, là, j'avais quand même pas mal de travail à une époque. J'avais peu de temps pour la traduction. Donc j'ai commencé à me choisir des textes assez brefs que j'avais envie de traduire pour me faire plaisir, principalement. Sans forcément me donner la perspective de les faire publier immédiatement. Et parmi ceux-là, j'ai trouvé les nouvelles de Jonas Tokarski que j'essaye de faire publier aussi parce que c'est un genre qui me plaît, le fantastique, finalement. Et là, il y a beaucoup d'humour, en fait. C'est très reposant de traduire des textes comme ceux-là, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucune difficulté de traduction, mais c'est très reposant de traduire des textes qui sont drôles, déjà, comme dans Hardy Bujas ou Alchimiska Ditye, et Film Farum aussi. Donc voilà, ça, ce sont les textes qui ont émergé dans ma pratique de la traduction à un moment où j'avais peu de temps, donc je prenais des textes courts, drôles, enfin qui me faisaient du bien au moral finalement. Et il y a plein d'autres textes magnifiques qui devraient être traduits, mais qui sont déjà demanderaient un travail beaucoup plus long, approfondi, une immersion beaucoup plus grande, de façon continue. Il y a des textes de Ventura, par exemple, qui ne sont pas traduits, qui devraient être traduits, je pense, vraiment. Encore faut-il y arriver. Toute la question est là, en fait. Mais là, voilà, je suis plutôt portée sur la nouvelle et des textes apparentés au conte. Et ça me fait très plaisir. J'espère que les éditeurs seront intéressés. Ça, c'est une autre histoire. Enfin, intéressés, je dis intéressés. Ils sont intéressés parfois, mais le problème, c'est parfois le fait de devoir payer pour l'impression. Peut-être que le changement du marché du livre va apporter quelque chose là-dedans, j'en sais rien.
La traductrice Aurélie Santolin était au micro d'Anna Kubishta pour ce programme spécial du 1er mai. Avant de nous quitter, je rappelle que vous pouvez réécouter cette émission ainsi que l'ensemble de nos programmes à l'adresse suivante www.radio.cz/fr. Merci de votre fidélité et de votre attention. Nous nous quittons toutefois en musique avec l'humeur poétique d'Antonine Dvorak.